Et c'est l'heure du journal de la rédaction et de retrouver Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Au lendemain de la mort dans la bande de Gaza de 7 travailleurs humanitaires tués dans une frappe israélienne, les réactions se multiplient ce matin pour exiger de l'État hébreu qu'il fournisse des explications.
Et les autorités israéliennes assurent qu'elles vont ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Toujours dans le contexte de cette guerre de représailles sans fin menée dans l'enclave palestinienne, on s'interrogera avec notre invité aujourd'hui, la sociologue Sylvaine Bull, sur les débats actuels qui traversent la société israélienne et en particulier quant à la stratégie du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dès le début de son premier mandat, Félix Tshisekedi avait promis de tout faire pour rétablir la paix. En vain, on écoutera le président de la République démocratique du Congo qui accuse désormais la communauté internationale de complicité avec les rebelles et leurs parrains rwandais. L'actualité en France, c'est notamment cette première mondiale ce matin où quand un IRM géant révèle des images inédites du cerveau humain. Enfin, on reviendra sur la disparition d'une grande dame des lettres antillaises, Maryse Condé, décédée la nuit dernière. Elle était âgée de 90 ans. Ils étaient originaires d'Australie, d'Amérique du Nord, de Pologne, du Royaume-Uni. Ils étaient venus pour apporter leur aide, en l'occurrence participer à la distribution de l'aide alimentaire dans la bande de Gaza menacée par la famine. Et hier, tous sont morts. 7 travailleurs humanitaires de l'ONG World Central Kitchen ont été tués dans une frappe israélienne. Un drame humain de plus dans cette enclave palestinienne où l'exécrable le dispute à l'intolérable. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Alors l'armée israélienne a aussitôt déclaré qu'elle enquêtait pour comprendre les circonstances de cet incident, je cite, tragique. Quant à l'organisation non gouvernementale américaine, l'une des rares encore en activité sur place qui avait participé à la distribution de cette aide acheminée à Gaza par voie maritime, eh bien, ce matin, Étienne, elle a immédiatement suspendu ses activités dans la région.
Oui, et ce qui reste ce matin, ce sont les images de ces 2 voitures blindées de l'organisation. Les images sont diffusées sur les réseaux sociaux. L'une d'entre elles a un trou de presque 1 mètre carré sur le toit. L'autre est en charpie. On voit aussi les corps des humanitaires qui portaient un casque et des gilets pare-balles de couleur noire. Les premiers éléments sont accablants. Les 2 voitures blindées étaient repérables. On voit le logo qui recouvre le toit. L'ONG dit aussi qu'elle avait prévenu l'armée israélienne du déplacement. L'équipe venait de quitter un entrepôt à Deir el-Bala dans le centre de l'enclave dans lequel elle venait de livrer de l'aide humanitaire. L'ONG considère qu'avec cette attaque, ce sont les opérations humanitaires en général qui sont visées. World Central Kitchen est un rouage majeur à Gaza. Depuis octobre, elle fait entrer près de 1500 camions. Ils ont servi à alimenter 60 cuisines qui ont été installées presque que dans toute l'enclave, puisque la situation reste difficile en termes d'accès dans le nord. Au total, 35 millions de repas ont été servis par cette organisation. L'ONG a été fondée par le chef José Andrés. Il est américain. Sa structure a agi aussi en Ukraine, en Turquie, au Maroc, en Indonésie. Elle a monté une base logistique impressionnante en Égypte. Puis, elle a organisé le premier transport maritime depuis Chypre, en coordination avec l'armée israélienne. Elle a fait construire une jetée à Gaza et envoyé 2 bateaux remplis de nourriture, dont un ce week-end, pour tenter d'ouvrir au final un corridor humanitaire maritime. Aujourd'hui, elle annonce la suspension de ses opérations dans la région, alors que le nord de la bande de Gaza est au bord de la famine et que les humanitaires dénoncent régulièrement les entraves imposées par l'armée à leurs activités.
Merci Étienne Monin. Alors effectivement, ce drame, vous le disiez, vient illustrer une fois de plus la difficulté croissante des associations humanitaires à opérer à Gaza. Je vous propose d'écouter Jean-François Corti, vice-président de l'ONG Médecins du Monde, joué en téléphone par Frédéric Seyss.
Ce que ça nous rappelle, c'est que c'est extrêmement difficile de travailler à Gaza aujourd'hui pour les humanitaires qui n'arrivent pratiquement pas à être opérationnel, notamment dans le centre et dans le nord de la bande de Gaza. C'est en revenant d'une distribution sur ce territoire que l'ONG World Central Kitchen a été touchée. Dans le centre et dans le nord, il n'y a pratiquement pas d'acteurs opérationnels, un peu des Nations Unies, quelques ONG qui font des allers-retours très rapides. Et on est donc dans une configuration de siège dans le siège, je dirais.
Le gouvernement israélien a promis une enquête. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Cette enquête est nécessaire, mais elle ne va pas répondre aux besoins de centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui sont dans une urgence absolue. On est quand même dans un contexte où il n'y a jamais eu autant de morts humanitaires et soignants dans un conflit contemporain. Pour rappel, c'est plus de 150 morts des Nations Unies depuis le 7 octobre. C'est Médecins du Monde qui a perdu un médecin il y a quelques mois, Médecins Sans Frontières qui a perdu aussi 4 de ses membres, et d'autres ONG aussi, on compte des morts parmi leur équipe. Donc on est dans une situation où les humanitaires ne peuvent pas travailler, l'aide n'arrive pas à être proportionnée parce qu'il y a des bombardements indiscriminés, parce qu'il y a aussi un blocus maritime, aérien et terrestre quasi total.
Voilà, Jean-François Corti, vice-président de l'ONG Médecins du Monde, joint au téléphone par Frédéric Say. C'est tandis que la guerre entre Israël et le Hamas continue donc à déverser sa haine sanguinaire, voilà que la menace d'une extension du conflit a ressurgi hier de manière spectaculaire après qu'un raid imputé à l'armée israélienne sur le consulat d'Iran en Syrie a fait 11 morts, dont 7 gardiens de la révolution. Téhéran a aussitôt promis de riposter, laissant ainsi se dessiner le scénario redouté d'un possible embrasement régional.
Et c'est encore dans ce contexte que l'unité nationale israélienne semble désormais vaciller.
Oui, depuis dimanche dernier, ils sont des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Jérusalem à se rassembler pour dénoncer l'échec de la stratégie de Benjamin Netanyahou et en particulier dans les négociations avec le Hamas. En clair, les protestataires reprochent au Premier ministre un manque constant d'empathie à l'égard des souffrances des otages qui a fini par avoir raison des espoirs de très nombreuses familles, lesquelles appellent aujourd'hui clairement à des élections anticipées. C'est ainsi que ce mouvement, inédit depuis les attaques terroriste du 7 octobre vient à fragiliser un peu plus encore la coalition ultra-conservatrice au pouvoir, au quand les divisions politiques occultées par la guerre refont surface dans l'État hébreu. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Sylvaine Bull, sociologue, chercheuse à l'EHESS, professeure à l'Université Paris-Cité. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors ces images de forte mobilisation depuis le week-end dernier donc à Jérusalem rappellent en réalité le mouvement social de grande ampleur qui au printemps dernier jusqu'au choc donc du 7 octobre s'opposait à une réforme controversée de la justice mais aussi s'inquiétait d'un tournant autoritaire du pouvoir. Quel regard portez-vous donc sur ces nouvelles manifestations ?
Oui, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, les manifestations, c'était juste interrompu hein, depuis 2 ans. Mais en fait, nous avons plusieurs cycles émotionnels de l'opinion publique israélienne. Il y a eu ce moment de sidération, etc. Et puis maintenant, nous sommes dans une phase de grande frustration, dans la mesure où le gouvernement et Bibi à sa tête n'a ramené ni les otages et n'a pas, entre guillemets, éradiqué le Hamas. Et la guerre dure, nous sommes dans un enlisement, nous sommes dans ce que j'appelle la guerre perpétuelle, voulue par Bibi, qui pèse aussi sur les finances locales, hein, c'est ça aussi que dit le mouvement de contestation, c'est on veut des élections, on veut réformer le système politique israélien, on veut parler du coût de la guerre qui devient assez insupportable, d'autant qu'un certain nombre ne participent pas à l'effort national de guerre.
La dernière fois que vous étiez venu à ce micro, c'était le 7 novembre dernier, vous nous aviez expliqué que si une forme d'alliance, de circonstance était formée autour donc de Benjamin Netanyahou dans le sillage de l'attaque du Hamas, il fallait bien comprendre qu'une majeure partie en réalité de la société israélienne le tenait en partie pour responsable de la dégradation des rapports avec les territoires palestiniens et entendait lui demander donc des comptes lorsque l'urgence de la crise serait passée. Est-ce que le retour de ces contestations en pleine impasse à la fois humanitaire et politique signifie que le sursis en quelque sorte accordé au Premier ministre est arrivé à son terme?
Oui, plus ou moins à ceci près que les Israéliens veulent d'abord la fin de la guerre et ensuite poser les questions de la critique interne, de la responsabilité de cette guerre, de la sortie aussi de la guerre qui n'est pas une menace d'histoire. Mais en effet, les voix, elles sont de plus en plus nombreuses contre Netanyahou, mais elles sont surtout des voix qui s'élèvent pour avoir une sortie de la guerre.
Des voix de plus en plus nombreuses, dites-vous. Est-ce que depuis le début de cette guerre de représailles, de nouvelles alternatives à Benjamin Netanyahou ont émergé sur la scène politique?
Oui, il y a des alternatives. Elles émergent via ce mouvement que l'on appelle le mouvement détente. On voit que les leaders sont ceux qui étaient là en 2011, lorsqu'il y a eu une réforme extrêmement large, économique et un vent de critique antilibérale. On voit la société entre guillemets civile, les entrepreneurs de l'high-tech, des environnementalistes, des chercheurs, des modérés. Et en effet, ce sont des figures qui sont en mesure de peser aux côtés des leaders traditionnels, mais qui ne sont pas encore arrivés à maturité pour véritablement définir un programme politique. Il faut être patient. Ça va durer un peu longtemps. Et entre les deux, il y a une solution intermédiaire qui est celle de Gantz ou de Eisenkot, qui sont des modérés, qui sont extrêmement critiques sur la façon dont Netanyahou ne veut pas négocier avec l'autorité palestinienne et les proxys.
Dans un contexte d'antagonisme exacerbé, vous rappelez sans cesse que les conditions d'un voisinage pacifié donc entre Israël, Gaza et la Cisjordanie passeront autant par des traités internationaux, des solutions institutionnelles que par l'ensemble des relations concrètes, des situations quotidiennes qui forment l'ordinaire de ces relations politiques dans cette région. Et pourtant, on a quand même le sentiment que sur ce plan aussi, l'idée même de la paix s'est quand même considérablement éloignée dans les esprits à la fois des Israéliens et des Palestiniens.
Oui, absolument, c'est même un gouffre, c'est une abîme, et puis c'est aussi un gouffre ici irréparable entre les camps des soutiens à Israël et le camp des soutiens aux Palestiniens. Mais néanmoins, il faudra se séparer, il faudra une solution, sauf à jouer le jeu de Netanyahou que j'appelle la paix perpétuelle, c'est-à-dire avoir ce statu quo qui serait encore pire que le statu quo d'Oslo avec une militarisation excessive et peut-être une réoccupation de Gaza. Mais rappelons-le, parce que nous lisons les sondages d'opinion tous les jours, les Israéliens ne veulent pas de la colonisation de Gaza et veulent décoloniser la Cisjordanie. Aussi pour des raisons empiriques, parce que ça coûte cher. Mais en effet, le gouffre en termes d'empathie, il est énorme, il est même insondable. Mais c'est aussi la survie d'Israël qui se joue ici. Et les Israéliens sont aussi conscients de façon assez sage qu'il va falloir trouver une solution qui ne peut pas être celle de la guerre perpétuelle, qui est quand même soutenue par Netanyahou.
C'est bien noté. Merci Sylvaine Bull, sociologue et chercheuse, je le rappelle, à l'EHESS, professeure à l'Université Paris-Cité, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aloïse Guérin pour la préparation.
Il s'était présenté comme le candidat de la rupture.
Et de fait, lorsqu'il prêtera serment aujourd'hui, Bassirou Niumaï Faye deviendra à 44 ans le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Une ascension fulgurante qui ne saurait toutefois cacher les défis qui l'attendent, aussi considérables que les espoirs placés en lui, et tout un pays qui, malgré la fièvre putschiste, vient ainsi confirmer son statut de démocratie la plus solide de la région. C'est l'une des nombreuses guerres oubliées aujourd'hui, un conflit né il y a 30 ans à l'est du Congo, dans la foulée du génocide des Tutsis du Rwanda, le tout sur fond de rivalités ethniques, mais aussi de pillage des ressources minières. Aujourd'hui, la capitale du Nord Kivu, Goma, est encerclée par les insurgés du M23. Jamais les combats n'ont été aussi proches. La situation humanitaire est catastrophique, sans compter qu'à cela s'ajoute la menace d'une guerre directe à présent avec le voisin rwandais accusé de soutenir les rebelles. Et c'est ainsi que le président congolais Félix Tshisekedi en appelle désormais à la communauté internationale dans une interview accordée à notre envoyé spécial Claude Guibal.
Cette agression, elle est pour des raisons économiques, pour piller les ressources de la République démocratique du Congo. Et ça se fait au prix d'une épuration ethnique qui ne dit pas son nom. Parce qu'à cause des massacres et des violences qu'exerce le Rwanda, des populations entières se déplacent, qui vivent dans des conditions infrahumaines. Et ces populations, on les déplace de force parce que les localités qu'elles habitent, leurs localités d'origine, contiennent des matières utiles aux pays industrialisés. Je vais être très dur, c'est de la complicité. À la mort de Navalny, il y a eu 500 sanctions des États-Unis contre la Russie. 500 pour un individu. Au Congo, ça fait 10 millions de morts. C'est pas moi qui le dis, ce sont des organisations humanitaires. Combien de sanctions contre le Rwanda ? Zéro. Si ça, c'est pas du deux poids deux mesures, dites-moi ce que c'est.
Le président congolais Félix Tshisekedi au micro de Claude Guibal.
Vous écoutez France Culture, il est 12h43 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Au cours des derniers mois, une vingtaine de volontaires avaient pu entrer dans l'antre de la machine. Et ce matin, l'IRM le plus puissant du monde a livré près de Paris ses premières images du cerveau humain, 10 fois plus précises que celles produites actuellement dans les hôpitaux. Une prouesse technique et surtout une première mondiale pour les chercheurs du CEA à Saclay, l'aboutissement de plus de 20 ans de recherche et qui, à terme, Cécile de Kervas-Douet, devrait permettre donc de mieux comprendre non seulement le fonctionnement même du cerveau, mais aussi de certaines maladies neurodégénératives ou psychiatriques.
C'est waouh, a dit la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui s'est déplacée à Saclay pour présenter ce nouvel instrument. Un aimant de 132 tonnes dont le champ magnétique atteint 11,7 Tesla contre 3 Tesla pour les IRM actuellement utilisés dans nos hôpitaux. Le coût de cet IRM hors norme, 70 millions d'euros investis depuis les années 2000, dont 50 millions d'euros versés par la BPI à deux industriels qui ont construit cet aimant. Mais les perspectives, notamment pour la détection et le traitement des maladies neurodégénératives, sont très prometteuses, se défend Nicolas Boulan, directeur de recherche au CEA et responsable de ce projet ISOLT.
Ici, par exemple, dans ce type d'acquisition, on est sensible à la concentration en fer, ce qui pourrait nous renseigner pour des maladies telles que celle de Parkinson. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le diagnostic en IRM dans cette maladie est effectué trop tard lorsque les symptômes sont déjà bien avancés. Les images révèlent alors déjà la mort de 50% d'un type de neurone. Alors, considérant que certains de ces neurones peuvent disparaître déjà 20 ans après les premiers symptômes, pouvoir détecter à un stade plus précoce cette maladie pourrait nous éclairer sur la maladie elle-même et développer de nouveaux traitements.
Détecter plus précisément et donc plus vite les changements du cerveau permettrait aussi de mieux soigner la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, mais aussi des maladies psychiatriques comme la bipolarité. Reste un problème de taille. Pour l'instant, il n'est pas question, avant longtemps, de voir cet outil installé à l'hôpital et donc utilisé pour les patients, car il est bien trop coûteux et bien trop complexe à faire fonctionner.
Des manifestations sont prévues aujourd'hui partout en France.
Plusieurs syndicats de l'éducation appellent à une nouvelle journée de grève pour réclamer l'abandon de la réforme dite du choc des savoirs et dont l'une des mesures phares, l'instauration de groupes de niveau, est accusée par une très large partie du corps enseignant d'organiser le tri des élèves. Les organisations réclament par ailleurs une revalorisation des salaires sans contrepartie ainsi que des moyens pour l'école publique. En retrait depuis une plainte de son ex-compagne qui l'accuse de violence psychologique, le député est écologiste Julien Bayou a démissionné ce matin à la fois de son groupe à l'Assemblée et de son parti Europe Écologie Les Verts.
Longtemps, elle aura incarné la créativité de la francophonie caribéenne.
Oui, l'écrivaine guadeloupéenne Marie Scondé est décédée la nuit dernière. Née un jour de carnaval de 1934, la fille de la première institutrice noire de l'île avait commencé sa vie à Pointe-à-Pitre où elle s'était rapidement imprégnée de la culture française avant de partir étudier à Paris où elle finira par renouer finalement avec ses origines en se confrontant notamment au racisme de l'époque. Éric Chavroux, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Parmi les thèmes majeurs de ses écrits, Éric, on trouvait l'esclavage, donc le colonialisme et au-delà les multiples identités noires.
Le parcours de celle qui était née Boucolon traverse les Caraïbes, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Son œuvre, également ponctuée de pièces de théâtre et d'essais, reflète les déceptions, découvertes et explorations de ces espaces. En 1987, invitée sur notre antenne d'Olivier Germain-Thomas, elle évoquait ainsi son retour en Guadeloupe.
Quand je parlais de l'Afrique, d'abord je déplaisais, j'irritais. On me reprochait d'en parler sans la comprendre. Et peut-être que c'est vrai. Donc au fur et à mesure, à la suite d'un très long cheminement, je me suis rendu compte que ma vraie place était chez moi, qui est un lieu finalement de synthèse.
Brillante étudiante venue à Paris dans les années 50, elle découvre des intellectuels et leurs réflexions, rencontre Aimé Césaire, un monde occulté par ses parents. Révélée en 1984 avec ses goûts, celle qui fut aussi journaliste, se disait en paix après la consécration en 2018 du prix de littérature de la Nouvelle Académie à Stockholm, une alternative au Nobel qui reconnaissait, je cite, « son langage précis pour décrire les ravages du colonialisme et le chaos du post-colonialisme, avec aussi l'usage du créole, mais sans tomber dans le folklore ».
La règle sera la création de beauté, parce que finalement, une langue, c'est ça. Il faut que la langue crée de la poésie, que la poésie emmène la beauté. Je ne crois pas que le folklore emmène jamais la beauté. Ce sont les oripeaux, les stéréotypes, ce sont les clichés, et ce n'est pas du tout la poésie vraie. Je n'ai pas tellement envie de faire des mélos. Donc, quand j'arrive à une scène chargée d'émotions, j'ai tendance à être très froide, et puis à la décrire avec une sorte de distance.
Marie Scondé, qui aurait aimé être musicienne ou parolière, reste une figure aux États-Unis où elle avait fondé le Centre des études françaises et francophones de l'Université Columbia. Première présidente en France du Comité pour la mémoire de l'esclavage, elle s'était toujours revendiquée guadeloupéenne indépendantiste, noire, femme et caribéenne.
Merci Éric Chavroux. Ils avaient été arrêtés en décembre 2016 au Pays Basque en possession d'une partie de l'arsenal militaire d'ETA. L'écologiste Jean-Noël Etcheverry et l'ex-journaliste Béatrice Moll sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris pour port, transport et détention d'armes appartenant à l'organisation séparatiste basque, des roquettes, des pistolets mitrailleurs, des fusils d'assaut, des explosifs et dont ils assurent qu'ils avaient prévu de les neutraliser pour les remettre aux autorités françaises, mis en examen et laissés pour libre sous contrôle judiciaire à l'époque des faits. Les deux prévenus avaient d'ailleurs participé un an plus tard à l'organisation d'une vaste opération publique de désarmement. Justement, ils encourent jusqu'à 10 années de prison. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi gris et humide sur sur la majeure partie du pays, la vigilance rouge au cru sera toujours en vigueur dans l'Yonne, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. 7 autres départements sont placés en vigilance orange, l'Indre-et-Loire, les Bouches-du-Rhône, la Dordogne, le Gard, la Gironde, la Charente et la Charente-Maritime. Quelques éclaircies parviendront toutefois à s'imposer à l'est et puis le soleil dominera en revanche largement sur les régions méditerranéennes. Quant aux températures, elles afficheront entre 12 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.